Nous voici aux portes du carême, ça commence mercredi, et j'en profite là pour vous dire que la messe aura lieu à 11h30 pour le mercredi des cendres. Aujourd'hui, nous avons des textes de carême, pourtant c'est le temps ordinaire, mais c'est les mêmes textes qu'on va réentendre pendant le temps du carême, qui sont liés à l'examen de conscience et qui permettent de faire le point. Alors j'aimerais aujourd'hui aborder un sujet plus global, c'est-à-dire notre entrée dans le carême. Le carême, qu'est-ce que ça doit être pour nous, ce temps si spécial, liturgiquement? Ça doit être l'occasion d'une expérience intérieure, plus forte que dans le reste de l'année. Le désert, ça symbolise dans la Bible à la fois l'expérience purgative, c'est-à-dire ce qui purifie, illuminative, on comprend, unitive, la mise en place. C'est toute la vie spirituelle en un mot, tous les mouvements de la vie spirituelle, et bien c'est ce que le désert symbolise dans l'écriture, mais aussi dans la pensée théologique chrétienne. Il est intéressant de regarder une étymologie possible du mot hébreu qui veut dire désert. Ça se dit midbar, bon, midbar. Mais on s'aperçoit qu'on peut le scinder en deux parties, ce mot-là. Il y a dabar, la parole. Et puis devant, il y a ce min, ce m, mais c'est min, qui est privatif ou superlatif. Il est privatif dans le sens où ça veut dire loin de, hors de. Donc, en dehors de la parole. Un lieu sans parole, c'est la définition même du désert. Donc c'est bien de le signifier de cette façon-là. Mais le min peut aussi dire, traduire, au-delà, par-delà. À ce moment-là, on comprend que c'est par-delà la parole. Et à ce moment-là, c'est plus un silence, c'est plus une absence de parole, mais c'est au-delà de la parole humaine, une communication plus transcendante. Et c'est intéressant de voir ces deux choses. Donc, dans cette étymologie du mot hébreu, il y a les deux aspects du désert. Faire silence. Dans un monde qui fait tellement de bruit, avec ses projets, avec ses préoccupations, avec ses peurs, avec tout ce qu'il est, quoi. Ce monde en marche et qui veut entraîner tout le monde à sa suite et qui ne supporte pas qu'on reste à côté, à le regarder passer, en s'occupant de bien autre chose que de lui. Et le silence, faire silence, le temps du carême, c'est ça. Fondamentalement, il faut faire un silence de médias, un silence par rapport à la voix du monde, arrêter de l'écouter. Et puis il y a le sens, toujours dans le désert du carême, dans l'expérience du carême, eh bien d'une communication plus intense avec Dieu, au-delà de notre parole ordinaire, au-delà de notre manière ordinaire de le prier peut-être, au-delà des habitudes, au-delà des concepts humains aussi. Et bien, il faut entrer dans le silence divin qui habite le désert. Et ça, c'est une expérience magnifique. Les moines du IVe siècle de notre ère, qui allaient au désert en Égypte, c'est cela qu'ils recherchaient. Mais il faut d'abord se mettre en silence. On ne peut pas entendre la voix de Dieu si on est rempli du bruit du monde ou du bruit de nous-mêmes, de nos désirs, de tout ce qui nous habite, ou de nos manques, parce que les manques font beaucoup de bruit aussi, même si ce sont des vacuités. Faire silence. Et vous savez, vous vous souvenez, le prophète Élie qui s'en va au désert pour fuir Jézabel, qui est nourri au désert et qui voit Dieu, comme Moïse l'avait vu avant lui. Et il se tient face à face. Alors, il est dit que Dieu se fit entendre dans un silence ténu. Et bien, c'est ça, le silence qu'on doit faire, est ténu, mais un silence habité, cet au-delà de la parole mais qui n'est pas une absence de parole, qui est au contraire une parole transcendée. La présence de Dieu, c'est ça. Un silence ténu. Le désert, c'est une expérience importante on le voit dans les grandes figures religieuses de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, avec le Christ lui-même, bien évidemment. Mais Moïse, regardez Moïse avec les trois parties de sa vie tellement symétriques. D'abord, une vie profane, comme prince d'Égypte pendant 40 ans. Il est dans le monde, immergé dans le monde, et c'est seulement à la fin de ces 40 ans, de cette vie, de cette première vie, on va dire, eh bien qu'il se décide à retourner vers les siens, à rechercher son origine. Cette recherche débouche immédiatement sur une seconde phase de son existence, 40 ans encore, où il va à Madian. C'est dans le désert, Madian. Donc il vit au milieu des semi-nomades. Et il fonde une famille. Là, il commence à prendre de l'épaisseur, Moïse, à prendre de la maturité. Là, il a des projets de vie profonds. Une famille, c'est beau. Et c'est à l'issue, tout à la fin de cette vie à Madian, que Dieu lui apparaît dans le buisson ardent. Le désert a fait son œuvre, vous voyez. Il est rentré dans ce silence qui est d'abord renoncé à tous les biens du monde, à toutes les convoitises du monde symbolisées par l'Égypte et la voie du monde qu'est l'Égypte. Il a été donc dans ce désert. Là, dans ce désert, il a retrouvé d'autres personnes, bien sûr. Et il a fait alliance avec elles. Et Dieu, voyant sa bonne volonté, sa bonne orientation, eh bien, s'est manifesté à lui. La dernière partie de sa vie, 40 ans encore, eh bien, il va devenir le guide d'Israël au désert. Lui-même est entré dans le désert, a précédé le peuple hébreu au désert, en quelque sorte. Il a entendu Dieu, et il va aider le peuple hébreu à faire la même expérience. Le désert, c'est quelque chose, c'est pas un lieu matériel. Ça peut être un lieu matériel, mais c'est d'abord un lieu spirituel, un lieu intérieur, c'est notre intériorité. Saint Paul de la Croix, le fondateur des passionnistes, disait à ceux, celles qui l'accompagnaient, écoutez, bien sûr, vous vivez en famille, vous avez des devoirs mondains, etc. Mais quand vous avez un moment, retirez-vous dans votre chambre, fermez la porte bien à clé, et là, descendez dans le désert intérieur. Dans ce que Jean Teulère appelle le fond de l'âme, la fine pointe de l'âme, la descendez là. Donc, la première opération, faire silence. Et là, adorer l'amour infini de Dieu. Alors, il fait beaucoup de développement à partir de là. Là, c'est l'illumination, la seconde partie, à l'écoute de Dieu, cette fois-ci, non plus. La première est ascétique, on s'oblige à faire silence, à fuir cette voie du monde qui est aussi en nous, malheureusement. C'est à cause du péché originel, ça. Elle n'est pas seulement extérieure, la voie du monde, elle est en nous, à travers tous les appétits humains qui protestent, qui sans cesse nous appellent et veulent nous entraîner à leur suite. Alors, cette voie du monde, il faut l'éteindre. Et le désert, c'est le lieu même, l'intériorité, donc, est le lieu même où on peut éteindre cette voie. Dès lors, quand on a cessé d'être une montagne de bruit, eh bien, on peut entendre la voix du Seigneur. Le désert du carême, c'est une grande mémoire de la passion aussi. La passion de Jésus, le carême débouche sur la semaine sainte, c'est une simple préparation de la semaine sainte. Mais parce que c'est l'accent est mis vraiment là-dessus, pas seulement nous intérioriser, prier mieux, oui, mais prier qui ? Jésus et Jésus-Christ crucifié. Là où il nous montre tout son amour, où il nous dit combien il nous a aimés. Il faut savoir que le désert, donc cette expérience spirituelle intérieure, intense, manifeste autant la lumière que l'obscurité. C'est paradoxal, mais dès qu'on approfondit son expérience de prière, on s'en rend compte. On voit autant la lumière, mais l'obscurité aussi se manifeste, s'approfondit en quelque sorte. Dans le texte de l'Apocalypse, vers la fin, Dieu va révéler à Jean, et nous révéler du même coup, le mystère de Babylone, qui est l'épouse du dragon, et le projet du dragon, du diable, pour enserrer l'humanité dans son filet. Bon, Babylone, une société qui exclut Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que il est dit que Jean nous dit dans le texte, « Je fus transporté au désert. » C'est curieux, ça. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il soit transporté au désert, non pas pour contempler Dieu, mais pour contempler un mystère complètement ténébreux, celui de Babylone, le projet du dragon? Parce que le désert révèle tout autant la lumière que les ténèbres. Le désert, cette prière profonde et intérieure, eh bien, révèle le mystère du mal au même titre que le mystère du bien. Et ça nous montre combien le combat spirituel est la norme anthropologique. On est dans le combat spirituel et on ne peut pas être ailleurs. Pascal disait que la profondeur du péché originel n'a pu être saisie par les âges antérieurs au Christ, parce que c'était insupportable de contempler un tel mystère sans avoir aussi le remède. Et le remède, c'est Jésus sur la croix qui nous le donne. Jésus nous donne la vie éternelle. C'est incroyable, mais c'est ce que Jésus est venu nous apporter. Mais il nous demande de participer au combat qui doit produire notre libération, notre passage de la mort à la vie. Donc le combat spirituel, c'est de bien saisir que les ténèbres, les vices, nos mauvais penchants, eh bien, ne sont jamais des amis, que c'est une puissance d'autodestruction qui est en nous, une puissance de mort. Et de fait, cette puissance a fait mourir Jésus sur la croix. C'est une puissance terrible. Mais le remède est là et il est bien supérieur. Alors, pendant ce carême, adonnons-nous à l'apprentissage des vertus, parce que c'est le chemin très concret qui nous libère.